Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans les journaux ce matin, cette question, la France peut-elle devenir un champion de l'intelligence artificielle?
Question qui n'a rien d'artificiel, elle, puisque un rapport a été remis à l'Élysée hier sur le sujet. Il y est dit que la France a du retard, mais que tout est possible. Les promesses de l'intelligence artificielle pour la croissance française, titre Les Échos. Le rapport préconise que l'État investisse 5 milliards d'euros par an sur 5 ans pour doper cette nouvelle industrie. Le jeu en vaut la chandelle, écrivent Les Échos, puisque la France peut espérer 1% de croissance supplémentaire d'ici 10 ans. À ce compte, l'Express voit déjà notre pays dans la cour des grands, avec ce cri en couverture, Cocoriaco, IA comme IA, vous avez compris, le Figaro souligne que l'Europe se pose en leader mondial avec de nouvelles règles qui classent les systèmes d'intelligence artificielle en fonction des risques qu'ils présentent pour les personnes. L'éditorialiste de l'Opinion s'en inquiète aussitôt, attention à ne pas verser dans la complication normative. À une France dépressive, l'IA doit redonner ce qui lui manque le plus, l'optimisme.
C'est pas gagné. De l'intelligence à l'université, il ne devrait y avoir qu'un pas, et pourtant, quand les journaux évoquent Sciences Po ce matin, il est assez peu question d'intelligence.
Antisémitisme, wokisme, gouvernance, Sciences Po en pleine dérive, titre Le Figaro. Les dérives d'une grande école abondent Le Parisien. Les deux journaux consacrent de longues pages à la crise qui secoue l'établissement. Tout n'y est pas de la même eau, il faut le dire. Le directeur démissionne pour une affaire de violence conjugale qui n'est pas encore jugée. Des étudiants ont occupé un amphi pour proclamer leur soutien à Gaza, qui n'est pas très loin pour certains d'un soutien au Hamas. Gabriel Attal a annoncé en personne que la justice allait être saisie pour cela. Dans Le Parisien, un des étudiants du comité Sciences Po pour la Palestine reproche à la direction de l'école de ne pas autoriser une minute de silence pour Gaza. Sur les massacres du 7 octobre, ces étudiants gardent le silence depuis 6 mois sans avoir besoin d'autorisation.
Tout à fait. L'intelligence artificielle est déjà dans l'aéronautique, mais peut-être pas assez. Le constructeur américain Boeing s'enfonce dans la crise.
Y a-t-il encore un pilote dans l'avion Made in USA? Questionne ironiquement 20 minutes. Ouest France décrit les turbulences en série chez Boeing depuis qu'un avion d'Alaska Airlines a perdu une porte en plein vol. Les autorités aériennes américaines viennent de rendre un audit accablant qui pointe des problèmes systémiques de contrôle qualité. Selon le New York Times, des joints de porte ont été posés par erreur avec du liquide vaisselle. L'étanchéité a été vérifiée avec des cartes magnétiques d'hôtel, le tout sur des appareils vendus 100 millions de dollars quand même. Le site Slate.fr raconte, lui, l'étrange affaire de John Barnett, ex-contrôleur de qualité justement chez Boeing, qui avait dénoncé des malfaçons et qui a gagné en justice contre son employeur, mais qui a été retrouvé mort l'an dernier sur un parking de Charleston. Article à ne pas lire si vous avez peur en avion.
Vladimir Poutine, lui, n'a apparemment peur de rien. Le président russe est au pouvoir depuis 25 ans. Et dimanche, sa réélection ne fait aucun doute.
Et son visage, grossi et émacié, est encore en une de beaucoup de nos journaux. Le magazine Courrier International consacre un long dossier à l'emprise qu'exerce Poutine sur son pays et son peuple. Le sociologue Alexei Levinson caractérise la relation entre les Russes et leurs leaders par la volonté du statu quo. L'idée se transmet de génération en génération chez les Russes, que tout changement ne peut être que négatif. Les Échos livrent une analyse très pédagogique des grandes étapes de la métamorphose de Poutine. Premier ministre de Boris Yeltsin en 1999, puis président porteur de réformes économiques prometteuses, lancé ensuite dans la chasse aux oligarques à partir de 2003, puis dans une dérive autocratique, liberticide et de plus en plus belliqueuse, au point que Ouest France écrit par provocation que Poutine ne sera pas réélu dimanche, non pas parce qu'il ne gagnera pas cette élection, mais parce que ce ne sera pas une élection.
Insubmersible Poutine, donc, titre également le magazine Challenge, avec une enquête sur le contournement des sanctions économiques occidentales.
Contournement qui doit beaucoup, explique l'hebdomadaire, à des accords avec la Chine et à la complicité d'entreprises américaines et européennes, y compris françaises. Challenge publie un tableau du top 20 de la présence française en Russie aujourd'hui. En fonction du chiffre d'affaires et des effectifs sur place, c'est le roi Merlin, Auchan et Engie qui sont sur le podium. Présence de plus en plus difficile à justifier, écrit le magazine, pour des groupes que l'Ukraine qualifie de sponsors de guerre. Plus anecdotique mais révélateur, Challenge révèle aussi l'existence d'une filière clandestine de livraison de grands crus français au mépris de l'embargo européen. En octobre dernier, un salon des vins français s'est même tenu à Moscou en présence d'une ribambelle de vignerons du Bordelais, d'Alsace ou du Beaujolais. Pendant qu'on boit en Russie, c'est l'Ukraine qui trinque.
Pour terminer, un long entretien dans Le Parisien avec Michel Sardou qui termine ce week-end sa tournée d'adieu à la Paris La Défense Arena. Cette fois, c'est vraiment la retraite.
En termes de longévité, Sardou, c'est deux fois plus que Poutine et même davantage, plus d'un demi-siècle de carrière et de tubes et aussi de coups de gueule et d'esclandre un peu mis en scène. Il avait déjà annoncé son départ, il est revenu. À 77 ans, il jure que cette fois, c'est pour de bon. Avant que je rechante, il faudra vraiment les allonger, dit-il. Je suis trop cher. Le 30 mars, je suis à la retraite. Cet été, je vais prendre mon bateau, me baigner en pleine mer, à poil, et je parlerai aux dauphins. Pas question pour Sardou de rester à Paris pour les Jeux Olympiques. Hidalgo va couper en deux la Concorde, tout interdire, tout m'inquiète. J'ai peur qu'on passe pour des cons dans le monde entier, dit-il. Le Parisien a tenté de lui faire dire du mal d'Aya Nakamura. Eh bien, c'est raté. Sardou ne sait pas qui c'est. Mettez-vous une chose dans la tronche, dit-il. Je n'écoute rien.
Dans l'interview, on lui demande s'il aura un pincement au cœur le dernier soir après la dernière chanson.
Et voici sa réponse. Non, une grande joie. Je vais enfin souffler. Quand je sors de scène, après 2 heures, je suis cuit. Et après, la route, les hôtels, je n'en peux plus. Vous savez qu'on ne peut plus manger après les concerts. À Marseille, je voulais réserver pour les 90 personnes qui m'accompagnent sur la tournée. Le mec m'a dit « Je vous adore, monsieur Sardou, mais si on le fait, le personnel travaillera pas demain ». Eh oui, c'est comme ça, partout en France, ça va mal. Les seuls qui nous ont accueillis, c'est un resto dans une forêt en Belgique. On a fait le bœuf, on s'est marré, comme avant. Les Belges sont moins cons que nous. Voilà, ça c'est du Sardou dans le texte. Pour l'écouter une dernière fois en musique, je vous propose Vladimir Ilitch comme un clin d'œil à l'actualité russe. Michel Sardou, on le sait, n'a jamais été léniniste, mais il n'était pas lénifiant non plus.
Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous.
Oui, Lénine, relève-toi, je suis pas sûr, hein. Lénine, rendors-toi surtout.
C'est la seule fois où Michel Sardou aura appelé à voter pour un communiste.
Ouais.
Sur des paroles de Pierre Delanoë qui n'était pas particulièrement communiste.
Non, la chanson est belle.
Ouais, la chanson est belle.
Non, surtout ne pas réveiller Lénine, le laisser là où il est. Merci, Hervé Gattegno.
À demain.
À demain, oui. Tout de suite, François-Olivier Gisbert.